Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Qu'est-ce que la Révolution nationale ?
La Révolution nationale, c'est le projet politique de Philippe Pétain.
La Révolution nationale signifie la volonté de renaître, de rassembler tous les éléments du passé et du présent qui sont sains et de bonne volonté pour faire un État fort.
En possession des pleins pouvoirs depuis le 10 juillet 1940, Philippe Pétain veut donc régénérer la France. C'est son ambition pour le pays. Un programme fondé sur le châtiment et la souffrance, les deux remèdes au délitement moral des années 30. À ses yeux, les Français ont fauté, ils doivent payer.
Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail.
Nous voilà au cinquième épisode, et c'est sans doute là que vous allez comprendre les ressorts idéologiques de Philippe Pétain. Dans la débâcle face aux Allemands, il a été appelé à la rescousse.
Je fais à la France le don de ma personne.
Il a cessé les combats, et dans une large majorité, le pays est soulagé. Mais maintenant qu'il s'est emparé du pouvoir, Philippe Pétain compte bien imposer sa vision du monde aux Français. Dans l'histoire de France, c'est le seul moment, jusqu'à présent, où l'extrême droite a exercé le pouvoir.
Ici Vichy, la voix de la France.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles.
Cinquième épisode, Travail, famille, patrie, la Révolution nationale.
C'est moi seul que l'histoire jugera.
Lorsqu'arrive le 14 juillet 1940, la France est groggy, pétrifiée. La défaite nationale a tout emporté. Pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées. Pas de bal populaire. Paris n'est plus la capitale. La République n'existe plus. Désormais, le pays se dirige depuis Vichy.
Les finances au Carlton. Et la justice aux plaisances, et la marine aux bains.
Et la propagande se met vite en place.
Le nom de Vichy demeurera lié à l'histoire du relèvement français. Vichy, qu'on se plaisait naguère à nommer la capitale thermale de la France, est depuis plus d'un an sa capitale provisoire. France Actualité a voulu conserver pour l'histoire le visage de cette ville où, entassé dans les hôtels, le gouvernement du maréchal travaille à refaire le pays. Le reporter de France Actualité, pour en donner une véridique image, a prêté un de ces fiacres qui, ici, remplace des taxis. Et c'est à l'allure d'un trot tranquille que nous allons visiter cette ville d'eau promue par les malheurs des temps au rang de capitale.
Dans cette nouvelle capitale, Philippe Pétain s'est installé à l'hôtel du Parc.
Voilà, monsieur le maréchal. Les chambres sont un peu petites, j'en suis désolé. Mais nous ne sommes pas là pour très longtemps. 2 mois au maximum. La salle de bain ? Par ici.
Mais alors, qui trouve-t-on dans le premier cercle de ce nouveau régime ?
Le premier cercle, c'est celui qui a suivi Pétain quasiment depuis Paris, même s'il y a eu quelques pertes en route.
L'historien Éric Allary.
Depuis Paris jusqu'à la Touraine, de la Touraine jusqu'à Bordeaux, de Bordeaux jusqu'à Clermont-Ferrand, puis de Clermont-Ferrand jusqu'à Vichy. Ben, à Vichy, il y a un monde fou. Hein. Autour de Pétain, il y a les militaires, évidemment. Il y a les hommes politiques. Il y a évidemment Pierre Lavat. Il y a tous les élus qui arrivent, qui se sont pressés pour voter les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet. Et puis, sur le plan politique, sur le plan idéologique, on y trouve à peu près toute la gamme sur l'échelle de Richter des extrêmes droites, des plus radicaux de l'antisémitisme, jusqu'à tous ceux qui ont pensé Maurras pendant des années avant la guerre. Il y a aussi des hommes du centre-gauche, des chrétiens. On a finalement un régime hybride qui va se mettre en place. Pétain fait avec ce qu'il a, mais aussi parce que Pétain a avec lui des gens de gauche, de droite, d'extrême droite, qui sont des gens qui croient dans le vainqueur de Verdun, qui croient dans Pétain. Alors à Pétain de trouver une solution pour donner un espoir aux Français.
Alors justement, pendant cet été 40, Éric Allary, une fois l'armistice signé avec Hitler, La France est asphyxiée par les troupes allemandes. Quelle est l'urgence, justement, pour Philippe Pétain?
Pétain, il se retrouve finalement dans un pays à reconstruire, dans un pays qui est pressé par les occupants. Et donc, il faut très vite proposer un programme, éventuellement des réformes. Et Pétain, très très vite, se fait fort de trouver la bonne solution pour amener un ordre qu'il voit plutôt militaire, un ordre militaire en France, et surtout pour marquer la rupture avec ce qui précède.
Voilà Vichy, où chaque soir, après une journée de soucis et de labeur, un homme droit et tranquille rentre au pavillon Sévigné comme un bon ouvrier après sa dure journée. L'ouvrier qui rebâtit la France, Pétain.
Mais comment la France a-t-elle pu en arriver là?
Par les Juifs, monsieur le maréchal. Tout allait à peu près bien, jusqu'au Front populaire. Mais la République ne peut pas porter un État fort. Les gens ne pensent plus qu'à leur loisir. Il fut l'effort.
À l'été 1940, Philippe Pétain et son entourage sont persuadés que la débâcle et la défaite française face à l'Allemagne sont dues à un pourrissement de la société française.
C'est une thématique finalement très classique dans l'extrême droite française.
Denis Péchanski est historien.
On se retrouve avec des, entre guillemets, nouveaux dirigeants qui considèrent comme leurs ancêtres, on va dire, que tout est parti de la Révolution française. Une forme de délitement de la société, et ce délitement, au fur et à mesure, a pris les formes de ceux qui portaient le complot, en quelque sorte, qui a participé de cette destruction de l'intérieur, et qui ont pour figure, alors à un certain moment, c'était le juif, le protestant, l'étranger, le franc-maçon, toujours, et c'est devenu le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon. On est dans une thématique très traditionnelle qui va ressurgir à l'occasion de la défaite et grâce à la défaite.
Pour assainir la France, Philippe Pétain décide donc de lancer une révolution nationale. Et dès le départ, il faut dire, Denis Péchanski, qu'elle s'inscrit aussi contre les flux migratoires des années 20 et des années 30. C'est important pour bien comprendre l'essence de la révolution nationale.
Oui, il faut savoir que dans l'entre-deux-guerres, on a eu des flux importants, consécutifs très logiquement à l'effondrement de la Première Guerre mondiale, à la mort de masse des hommes, et donc à la nécessité de trouver de la force de travail. Et les premiers à favoriser à la fois l'immigration et puis la naturalisation, ça a été les grandes entreprises, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc ça a été massivement des Polonais, des Italiens, ensuite des Espagnols. Et là, on a toute une immigration économique qui va surgir. Et puis, avec la montée en puissance des régimes autoritaires ou totalitaires, on voit émerger une autre immigration, une émigration politique, qui est minoritaire en comparaison avec ces grandes vagues des années 20, mais qui va évidemment presque se combiner avec la première pour provoquer des réactions de rejet, alors même que la crise va se déclencher, parce que on veut bien accueillir à la limite des étrangers dans les années 20, avec la relance économique post-guerre. Mais quand vient la crise de 29, et en France ça commence plutôt en 31, on voit la crise émerger et vraiment toucher très profondément l'économie et la société française, les premières cibles vont être évidemment les étrangers.
La France est trop bonne. Tu as vu les actualités? L'ordre chez les Allemands, la pagaille chez nous.
Leur redressement est impressionnant, un peu inquiétant même.
Chez eux, tout ce qui n'est pas allemand, tous les étrangers, dehors. Nous, on leur ouvre les bras et notre porte-monnaie.
Et à la fin des années 30, à la veille de la guerre, Denis Péchanski, il y a une profonde crise d'identité nationale en France. Comment ça se traduit?
Alors ça, cette thématique de la crise d'identité est une thématique qui a été développée par mon ami Pierre Laborie, qui malheureusement est décédé, et qui avait montré comment, à la fin des années 30, on avait une sorte de délitement de la société de l'intérieur, une forme d'atomisation, la perte des valeurs partagées, celles qui étaient héritées de la Révolution française, de la République laïque, et tout cela sur fond de rejet de l'autre. Et cette atomisation et ce rejet de l'autre vont détruire ce qui était le ciment de cette société, cette véritable identité nationale forgée, encore une fois, dans la Révolution et la fin du 19e. Ce qui est sûr, c'est que la société française est mûre pour accepter un régime autoritaire tel qu'il va être mis en place par Pétain et Laval. Et cette façon dont, finalement, l'exode va comme symboliser cette disparition des valeurs partagées. On s'enfuit, on fait disparaître ce qui était notre bagage commun. C'est très frappant. Cette crise d'identité nationale, c'est une clé très intéressante pour comprendre à la fois la crise de la fin des années 30 et en même temps des crises postérieures à partir des années 80 ou dans les années 2000. On voit réémerger de façon récurrente cette tendance à l'atomisation, au repli communautaire et au rejet de l'autre.
Il y avait en Afrique du Nord,
Jean-Marie Le Pen,
Algérie, Tunisie, Maroc, il y a 20 ans 20 millions d'habitants.
1985.
Il y en a aujourd'hui plus de 50 millions, ils seront plus de 100 millions dans 15 ans. Or, de tous ces pays, déjà des courants viennent en France et constituent autant de cellules qui sont dans notre pays des cellules étrangères.
Revenons à Philippe Pétain. Dans l'atmosphère de délitement causée par la débâcle, parler d'un pourrissement de la société, dire que la République est responsable de la défaite, c'est aussi une façon d'innocenter les Allemands.
Il est certain que le discours officiel considérait que le responsable ne pouvait pas être l'occupant puisque l'occupation était une conclusion d'un délitement intérieur. L'armée allemande n'était pas la cause de la défaite. La cause de la défaite, c'était ce pourrissement de l'intérieur. Et donc, c'était le juif, le communiste, l'étranger, le fond-maçon. Et c'est une forme de démobilisation majeure dont porte la responsabilité le régime de Vichy, par opposition avec le discours concurrent, bien entendu, que portait De Gaulle depuis longtemps.
La masse française est unie en réalité sur trois impératifs que voici.
Charles de Gaulle,
ici Londres,
1942.
Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler.
Comment est-ce que vous pourriez définir en quelques mots, vous, Denis Péchanski, l'essence de la Révolution nationale?
Alors, l'essence de la Révolution nationale, c'est un mélange de valeurs qui sont censées rassembler les éléments dits purs de la société et une politique d'exclusion. Alors, rassembler les éléments dits purs, ce sera autour des valeurs du nouveau régime, d'un régime qui sera autoritaire, fixé par des actes constitutionnels dès le mois de juillet 1940, affirmant les valeurs du travail, de la famille, de la patrie, de la piété, et là encore en rupture avec la République, il y a une sorte de retour sur la loi de 1905, contre la loi de 1905, contre la séparation de l'Église et de l'État. Donc travail, famille, patrie, piété, ordre. Donc ça, c'est ce qui doit cimenter la nouvelle société et qui sera dans un régime autoritaire. Mais ça passe par l'exclusion, deuxième volet de la Révolution nationale, de ceux qui sont considérés comme responsables de la défaite et qu'on doit mettre à l'écart. Il ne s'agit pas d'organiser le meurtre de masse de ses ennemis, il s'agit de les marginaliser. Les marginaliser socialement, économiquement, après les avoir marginalisés politiquement.
Français, je veux vous parler de la France, de sa détresse présente, de son avenir. Il faut choisir. Les chefs rebelles ont choisi l'émigration et le retour au passé. J'ai choisi la France et son avenir. L'histoire dira plus tard ce qui vous fut épargné.
Dès l'été 1940, la mise en place de la Révolution nationale est fondée justement sur l'exclusion des mauvais Français. Qu'est-ce qu'on en fait ? Denis Péchanski, de ces mauvais Français?
Alors, ces mauvais Français, ce sont ceux qui sont responsables de défaites. On en a parlé. Donc, ce sont les Juifs, les communistes, les étrangers et les francs-maçons. Et les responsables politiques de la Troisième République qui, avec le Front Populaire, ont participé à la dernière phase, en quelque sorte, de cet effondrement. Et donc, on va régénérer la société française de l'intérieur, puisque c'est ça la raison. On va pas se mobiliser contre l'occupant. On va se régénérer de l'intérieur, ça veut dire rassembler les éléments purs autour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, piété, ordre, et exclure les éléments qui sont considérés comme responsables de la défaite. Donc, on va prendre des mesures contre les étrangers. Dès le 22 juillet, il y a une loi qui permet de revenir sur les naturalisations massives de 1927, cette fameuse loi très libérale qui s'inscrit dans ces années 20 très accueillantes pour l'étranger. On va donc mettre en place une commission de révision des naturalisations, puis une batterie d'autres mesures vont être prises, les visant de façon spécifique. On va prendre des mesures contre les Juifs.
Les Juifs, encouragés par leurs frères de la radio gaulliste, sèment tous les bobards qui peuvent décourager les patriotes, déshonorer leurs chefs. Ces mêmes Juifs sont l'armature du marché noir, générateur de misère et de légitime indignation d'ouvriers. Les bolchevistes frappent les patriotes dans le dos, en attendant, victorieux, de déporter les élites, d'effacer notre civilisation chrétienne, d'exproprier paysans, commerçants, artisans, et de procéder à des exécutions massives.
Le régime de Vichy a beaucoup d'ennemis, qu'il va lui-même définir comme tels, et qu'il partage avec l'occupant.
L'historien Henri Rousseau.
Ça, c'est un élément très important. Il a ses ennemis à lui, mais la plupart des ennemis qu'il désigne par différents textes ou par sa politique répressive ou de persécution sont les mêmes que ceux des nazis. Donc, ce qui crée quand même un terrain d'entente. Ça a été amené. Enfin, pour moi, enfin, c'est comme ça que j'ai analysé une des clés du fait que la collaboration, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'a pas été à sens unique. C'est pas les Français qui se sont précipités tout seuls. L'occupant allemand avait en grande partie intérêt à cette collaboration et n'y avait d'une certaine manière aucun inconvénient. Voilà.
Par ses encouragements à dénoncer les mauvais Français, du coup, la révolution nationale de Philippe Pétain a ébranlé les solidarités et le rapport à l'autre, le rapport à l'altérité. Avec quelles conséquences pour la société du régime de Vichy?
Le régime de Vichy, pour moi, est un régime de guerre civile. Je pèse mes mots, je le dis pas comme ça. C'est-à-dire, c'est un régime qui a pour objectif d'exclure une partie de la société française, de la société des citoyens, de la citoyenneté, de la société politique, de la société civile, et de manière affichée, claire. Donc voilà, alors après la Révolution nationale a d'autres objectifs, mais le principal objectif, c'est l'idée de régénérer une France qui soit l'image de Pétain, en fond. Êtes-vous plus français que lui? C'est une des affiches les plus célèbres de l'occupation. Êtes-vous plus français que lui? Ça veut dire êtes-vous plus que lui attaché à la patrie, au travail, à la famille. Enfin, voilà, on pourrait continuer, parce que ce sont des choses, au fond, assez connues, qu'on fait un peu semblant d'oublier aujourd'hui. Mais enfin, quand même, c'est dans les manuels depuis 30 ans, tout ça.
Je pense au maréchal, tout pour moi renaît soudain. Quand je pense au maréchal, tout m'apparaît clair et sain. Enfin je vis, je respire, je vois la fin de mon mal. Et la France me sourire quand je pense au maréchal.
Vous dites, Éric Alaric, que cette révolution nationale, c'est un programme d'unité par l'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire?
L'unité par l'exclusion, ça veut dire, en fait, que Pétain et la Révolution nationale veulent créer un pays de bons Français. De bons Français qui sauront dénoncer les mauvais Français, les communistes, les juifs, les francs-maçons. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se réunissent dans la clandestinité? Non mais la France a besoin de transparence, la France a besoin de gens qui se comportent comme des soldats, avec franchise. Et très rapidement, parallèlement à la Révolution nationale, il y a cette politique antisémite de répression, de persécution qui se met en place et qui va prendre évidemment des visages de plus en plus durs, de plus en plus cruels.
Le maréchal Pétain, poursuivant ses voyages à travers les pays de France, est accueilli par Châteauroux et le Berry.
Philippe Pétain, discours à Châteauroux, 28 mai 1942. Les nations qui ne sont pas unies. Je crois me rappeler que ça doit être dans les évangiles, car je dis souvent beaucoup de choses qui sont dans les évangiles sans m'en douter. Eh bien, les nations qui ne sont pas unies périront.
On a le sentiment, Denis Péchancy, quand on ausculte l'essence de la révolution nationale, qu'elle véhicule le goût du malheur. Mais j'entends par là le goût du malheur pour les autres.
Oui, vous avez entièrement raison, et en même temps, non seulement le malheur c'est pour l'autre, mais grâce à Pétain, on va sortir de la guerre. Il y a cette illusion que va essayer de porter Pétain, de mettre les Français en dehors de la guerre, les bons Français, ceux qu'on doit sauver, pas ceux qui sont responsables de la défaite. Ceux qui sont responsables de la défaite, on va les mettre dans des camps d'internement. Parce qu'on oublie aussi cette dimension-là. Décembre 40, janvier 41, il y a à peu près 55 000 personnes qui se trouvent enfermées dans des camps d'internement. Mais quand on voit la carte, on s'aperçoit que sur ces 55 000, il y en a 3 ou 4 000 en zone nord et plus de 50 000 en zone sud, c'est-à-dire dans la zone de Vichy, sous la seule tutelle de l'État français. Donc ça veut dire que c'est un choix. À partir du moment où on considère que le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon sont responsables de la défaite, il faut les exclure. Et dans cette politique d'exclusion, dans cette logique d'exclusion, le camp d'internement va être un outil décisif. Le camp d'internement, c'est un camp qui permet ce qu'on appelle l'internement administratif, c'est-à-dire d'interner des personnes, non pas pour des délits ou des crimes qu'ils auraient commis, mais pour le danger potentiel qu'elles représentent pour l'État. C'est ça la logique. Et ces camps-là sont d'abord en zone sud. Et cette logique-là est d'abord une logique française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répression en zone nord, il y a une répression très forte menée par les autorités allemandes, mais ils n'ont pas cet outil-là.
Les camps du Loiret abritent désormais la quasi-totalité des indésirables. Ici grouille le juif. En France, ils pullulaient comme des parasites. C'est une mesure de salubrité publique qui vient d'être prise.
Déclaration de Philippe Pétain à son procès. 31 juillet. 1945.
Nous écoutons sa déclaration.
C'était bien une révolution que nous devions entreprendre, au vrai sens du mot. Ce devait être un retour radical et comme héroïque, dans un élan d'enthousiasme constructif aux principes qui font la grandeur d'une nation.
La révolution nationale, Denis Péchancy, est portée par une devise, travail, famille, patrie. Je vais faire l'avocat du diable, 30 secondes. Si on dissèque cette devise, le travail, la famille, la patrie, ce sont des valeurs qu'on peut défendre, après tout, séparément. Alors qu'est-ce qu'elle recèle d'autre, cette devise de travail, famille, patrie?
Mais c'est comme souvent avec les devises, ce sont pas les mots qui portent sens, c'est leur combinaison et la mise en perspective. La Révolution française aurait très bien pu dire liberté, égalité, fraternité, travail, famille, patrie. Ça posait aucun problème. Sauf que elle a dit liberté, égalité, fraternité, puis laïcité un siècle plus tard, et que là, bien sûr, derrière le travail, il y avait la conviction que la France s'était effondrée par esprit de jouissance, pour reprendre la terminologie officielle, et donc il fallait la remettre au travail, que la famille avait été menacée par la République, et qu'il fallait la restaurer autour des valeurs qui étaient la valeur de la religion catholique, et puis la patrie. Alors là, c'est toute l'ambivalence du discours de Pétain. Parce qu'on peut se dire, tiens, il affirme la présence de la patrie face à l'Allemagne. Sauf qu'il joue la carte de la collaboration. Et qu'on ne peut pas séparer la Révolution nationale de la collaboration. Les deux sont associés pour définir le régime de Vichy. Et donc, cette combinatoire-là fait que
ça va, malheureusement, offrir à Pétain et au nouveau régime une opportunité pour tromper la population. Parce que Pétain, c'est l'homme de Verdun. Comment l'homme de Verdun peut trahir? C'est pas possible. Les Français vont d'ailleurs se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce général devenu maréchal, ce héros qui nous dit « j'ai fait le choix de la collaboration ».
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants sera diffusé un important communiqué.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
Philippe Pétain, octobre 1940.
Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement.
Après avoir serré la main d'Adolf Hitler à Montoire-sur-le-Loir, Philippe Pétain pense qu'il va pouvoir lancer sa rénovation de la France. Une France débarrassée des droits de l'homme, remplacée par les droits naturels. Mais qu'est-ce qu'il entend par droits naturels?
Les droits naturels qui conduiront à diffuser cette théorie des communautés naturelles, c'est cette idée que la France est une famille, qu'il est le chef, le père de famille, que la France doit retrouver ce qui a fondé finalement son histoire, ce qui peut paraître très archaïque quand on veut construire un ordre nouveau. On le construit avec finalement l'image d'une paysannerie qui serait plutôt celle de l'Ancien Régime. On construit une idéologie qui apparaît quand même plus celle du 19e siècle où finalement Pétain essaye de la jouer nostalgique par rapport à ce que la France a été. Les paysans formeront la communauté naturelle, les provinces formeront les micropatries, la famille sera de nouveau réunie, et plus personne ne sera divisé. Tant pis s'il n'y a plus de machines, tant pis s'il n'y a plus de nourriture, tant pis s'il n'y a plus de chaussures en cuir. Mais en tout cas, il propose ce programme de rénovation nationale ou de révolution nationale qui paraît soit désuet, soit totalement à côté de la plaque très très vite.
La révolution nationale propose aussi aux Français un retour à la terre. L'ouvrier doit redevenir paysan.
Bon, dites-moi, vous venez d'arrêter votre cheval? Quel âge avez-vous?
17 ans.
Parisien?
Non, de la banlieue, Nanterre.
Nanterre? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Je travaillais dans une usine de fabrique d'orsaux.
Ce retour à la terre est mise en scène par la propagande de Vichy. La radio vichiste dépêche des journalistes dans les campagnes.
Nous allons quitter maintenant votre belle ferme.
Et on diffuse des reportages exaltés.
Jetez un coup d'œil sur votre admirable grande cour carrée qui est une sorte d'image de la France, absolument, voyez-vous. Cet ordre, cette harmonie, cette prospérité qu'on y devine, tout cela est l'image même de la France de demain, calme et sérieuse, qui sera consacré surtout à ces travaux des champs comme l'a été au cours des siècles. Et je trouve que l'œuvre que vous avez entreprise de ramener la jeunesse des villes, la jeunesse qui vivait dans l'atmosphère enfumée de la poussière des usines et qui se trouvait maintenant devant un problème extrêmement grave puisque beaucoup de ces usines voyaient la fumée qui ne sortait plus de leur cheminée, n'est-ce pas? Ces jeunes gens qui étaient désaxés, qui ne savaient plus où aller, qui auraient été implorés des secours de chômage, ce qui est tout de même dégradant et triste, surtout à leur âge. Ces jeunes gens maintenant trouvent une vie nouvelle, une vie saine. Ils ont entre les mains un magnifique métier, solide, profond, qui est le métier même des Français. Et je trouve que ce que vous faites est tout simplement admirable. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus jusqu'à ce jour?
Extrêmement satisfait. Les résultats tangibles ne sont pas douteux. Et nous sommes convaincus que nous aurons collaboré au relèvement de la France et à l'établissement d'un esprit sain dans des corps sains.
Nous terminerons en disant tout de même, c'est beau la France, c'est beau la France.
Pétain parle souvent du monde paysan dont il est issu. Le problème, c'est que la terre, les paysans sont très vite déçus. Les préfets sont surpris. Ils font remonter ça à Vichy. Cette déception des paysans qui sont réquisitionnés, qui sont taxés, les départements déficitaires doivent recevoir des départements excédentaires. Enfin bref, l'ancien combattant paysan, lui, il est avant tout paysan à un moment. Et il compte ses sous. Et puis, il s'aperçoit que finalement, il ne peut pas s'acheter de matériel, que les retards s'accumulent. Les paysans sont très déçus. Et dès avant l'été 1941, on sent le vent mauvais donc, que Pétain évoquera un petit peu plus tard, où il va admonester les Français. Vous accumulez les erreurs face à ce que je voulais faire avec vous. Je voulais faire quelque chose de cette révolution nationale, mais vous êtes en train de me résister. Il ne parle pas que de la résistance clandestine, de me résister. Il parle de résistance des Français, dont les paysans. Et ça, il est très déçu, puisque les paysans représentent encore 50% de la population française.
Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. Un véritable malaise atteint le peuple français.
Il faut quand même dire un mot sur l'état de la France à ce moment-là, Éric Alary, parce que soulagé par la présence rassurante du vainqueur de Verdun, entre guillemets, la France a basculé dans un maréchalisme fervent. Comment ça se traduit, ce maréchalisme à tout craint ?
Le maréchalisme se traduit par une production d'affiches sûrement inédite dans l'histoire du XXe siècle. Donc très rapidement, la Révolution nationale, ce mot apparaît partout sur les affiches, il apparaît dans les journaux, dans la presse, et effectivement aussi, il apparaît à l'église. Certaines images pieuses montrent le maréchal Pétain en crise quasiment, c'est le Christ maréchal, le maréchal Christ comme Jeanne d'Arc. Donc il est comparé au saint. L'Église ne dit rien face à ce blasphème, finalement, parce que l'Église y trouve aussi son compte, au début en tout cas, dans ce message de rédemption, dans ce message d'expiation. Et Pétain est celui qui va permettre aux Français, peut-être, d'avoir un sort moins terrible que s'il n'avait pas été là. Mais il va falloir expier sa faute d'avoir suivi la Troisième République, d'avoir suivi le Front Populaire.
Pour expier, Philippe Pétain compte s'appuyer sur le clergé catholique.
Sans doute, vous rappelez-vous, monsieur le maréchal,
prêche dans l'église du Puy-en-Velay, 1941.
Qu'à monsieur le maire Pébellier, vous invitant à venir parmi nous et vous rappelant à cette occasion les gloires traditionnelles du Puy, vous avez répondu en souriant que vous viendriez ici comme Charles VII. Charles VII était venu au jour de deuil. Il revint au jour meilleur. Vous êtes venu aussi, monsieur le maréchal, au jour d'épreuve. Ah, Dieu veuille que vous reveniez et que votre histoire et celle de la France ressemble à l'histoire de Charles VII, le sauveur de l'unité française.
Finalement, l'Église de France ne peut qu'adhérer à un programme qui avance, travail, famille, patrie. Bon, ça correspond quand même à un discours qui peut être aussi bien celui du christianisme social de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ça correspond finalement à cette recherche de fraternité spirituelle aussi chez les catholiques. Et parce que aussi les catholiques ont pour certains une revanche historique à prendre. Les catholiques, en 1904, en 1905, en 1906, sont pourfendus par des gens comme Émile Combes, des radicaux laïcards, comme on disait à l'époque, laïcistes. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Aristide Briand qui ont apaisé et qui ont permis de promulguer cette loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Mais finalement, l'Église a été exclue de toutes les instances universitaires. Tout au long du XIXe siècle, quel que soit le régime en place, ils n'ont plus voix voix au chapitre à l'éducation des enfants. Ils n'ont plus le monopole. Un certain nombre de congrégations vont être punies. Donc, il y a aussi ce sentiment que l'Église reprend sa place dans l'État. Mais attention, Pétain sait très bien ce qu'il fait. Il ne veut pas que l'Église s'immisce trop dans l'État. Et il ne veut pas non plus que ses ministres, notamment Chevalier, aillent trop loin, par exemple, en remettant les crucifix dans les classes. Ce qui veut bien dire que Pétain, quelque part, a une certaine vision de la laïcité. Après, évidemment, sa vision de la démocratie ne peut être que tronquée, alors que lui-même n'a pas été électeur, comme tous les militaires avant la guerre, quoi.
Précisons une chose importante. Philippe Pétain n'a en effet jamais voté de sa vie. Une loi de 1872 interdisait aux militaires de voter.
À voter.
Cette loi fut abrogée en 1945. Mais comme Philippe Pétain a été condamné, entre autres, à l'indignité nationale, le privant de ses droits civiques, et bien même après la guerre, Pétain n'a jamais mis de bulletin dans l'urne. Un rapport distant, donc, avec la démocratie. Un système qu'il n'a jamais porté dans son cœur, lui préférant les hiérarchies militaires et le culte du chef, qu'il envisage comme une religion.
Bien sûr qu'il essaye de construire autour de lui une forme de croyance religieuse, parce que c'est la garantie de la confiance qu'il peut obtenir de la population. La réalité de l'occupation est quand même pas exactement ce que pouvaient attendre les Français et ce que lui-même pouvait espérer. Donc, cette religion, elle passera par quoi ? Elle passera par ces figurines, enfin c'est extraordinaire. Moi, j'ai travaillé sur la propagande sous Vichy, de voir ces petits bustes là qu'on avait dans toute la France, de voir ces images d'Épinal racontant l'histoire de Pétain, d'avoir ces millions des almanachs des PTT qui étaient distribués et qui renvoyaient toujours à l'image de Pétain, une sorte de duplication à l'extrême de l'image de Pétain. Et encore une fois, comment s'imaginer que le vainqueur de Verdun puisse trahir, que ce grand-père, alors qu'il est tout le temps à faire des papouilles à des gamins, que ce grand-père puisse risquer la vie des Français, et y compris participer à des crimes les visant, c'est impossible. Donc là, il y a vraiment une construction qui est bien au point et qui s'appuie sur une situation de crise d'identité nationale à la fin des années 30. Il va être une réponse à cette crise, même si la vraie réponse, elle viendra plus tard, progressivement, à partir de 42-43, où on va avoir une sorte de reconstruction de l'identité nationale autour du rejet de l'occupant, mais aussi du rejet de Vichy, et la volonté de la victoire de l'Angleterre, des Alliés. Enfin bon, on va reconstruire l'image de la France et des Français autour des valeurs partagées.
Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain.
Quand on pense à la propagande de la Révolution nationale, on doit dire un mot de la radio, évidemment. Philippe Pétain et son régime en ont abusé comme personne avant eux.
Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal.
Avec quel impact sur la société française, cette voix de Philippe Pétain à la radio, Denis Péchanski ?
Ça participe de l'ensemble du dispositif mis en place pour le culte du chef. Donc l'impact, il est réel, en particulier par les discours récurrents qu'il a pu porter. À chaque fois, son discours va avoir de l'importance. Parce que il cimente. Enfin, il est censé cimenter la société autour de lui.
La terre, elle, ne ment pas.
Mais quand on relit justement ces discours aujourd'hui, on est frappé de voir à quel point Philippe Pétain s'incarne comme la figure du père. Il admoneste les Français.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Il est parfois irrité, il est agacé, il est en colère, il veut protéger aussi souvent. C'est assez troublant de relire ces discours aujourd'hui. C'est le père de la nation.
Alors c'est le père de la nation et en même temps, par ces discours, on note les fêlures et bientôt les fractures. Parce que quand il dénonce en août 41, le vent mauvais qui se lève en France, c'est bien le sentiment qu'il a que l'opinion est en train de décrocher, comme on dirait, dans les termes d'aujourd'hui. Et ça c'est intéressant. Parce que c'est à la fois un discours de mobilisation anticommuniste, en particulier après l'opération Barbarossa, donc la rupture du pacte germano-soviétique, le discours du 12 août 41, donc un discours extrêmement ferme, et en même temps le reflet qu'il se passe quelque chose. On a souvent pensé que c'est en 42 que l'opinion avait basculé. En fait, ça bouge fortement en 41.
Je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais.
Et il en est comme le témoin à travers ce discours. Quand il admoneste, c'est pas simplement parce qu'il veut jouer le rôle du père et de celui qui dit « bon, laissez-moi gérer tranquille, c'est moi qui décide et vous obéissez », comme effectivement, en tout cas à l'époque au moins, la figure du père vis-à-vis des enfants. Donc on a certes ça, mais derrière, on a une inquiétude.
Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure.
Un autre outil majeur de la propagande de cette révolution nationale, ce sont les voyages qu'a entrepris en province Philippe Pétain entre 1940 et 1942. Alors d'abord, en quelques mots, à quoi ressemblait un voyage type du maréchal Pétain ?
D'abord, c'était une sorte de folie mystique. Enfin, il avait à chaque fois des foules qui étaient à ses pieds, à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Et il a bien compris que ce voyage-là était crucial dans la construction du nouveau régime. Et en particulier, par référence finalement au passé de la royauté, au passé de l'ancien régime, quoi. C'est le corps du roi qui vient auprès du peuple, au milieu du peuple, pour avoir cette fusion, dans le respect évidemment du chef, qui est vraiment crucial. Et quand on voit ces voyages avec ces étapes obligées, alors les étapes administratives, mais aussi l'église, mais aussi les anciens combattants dans la grande place centrale. Enfin bon, je veux dire, il y a comme un rituel qui s'impose à chaque fois et qui réunit vraiment des masses, oui.
Le maréchal Pétain est l'hôte du Limousin.
Il faut savoir que chaque voyage était enregistré en intégralité et qu'on possède des heures et des heures d'enregistrement de chaque déplacement. Prenons un exemple. Aubusson dans la Creuse, où Philippe Pétain est venu passer la journée du 21 juin 1941. Lorsque le maréchal apparaît, une jeunesse en liesse l'ovationne.
Oh là là, pas du tout.
On demande à la foule d'acclamer le sauveur.
Venez !
Et puis, passage obligé, on chante, aidé par la fanfare. Aubusson, c'est une ville de tapissiers. Il faut donc avoir en tête que toutes les maisons d'Aubusson ce jour-là sont décorées de tapisseries tendues et de drapeaux confectionnés à la gloire du maréchal. Un spectacle très étrange, une sorte de kermesse médiévale. Ensuite, comme dans chaque ville, Philippe Pétain sourit et salue la foule. Place au discours de bienvenue.
Monsieur le maréchal, vous voyez réunis en ce moment autour de vous, groupés dans un élan d'affection et de respect pour votre personne, la jeunesse de la Creuse. En ce jour solennel, nous faisons le serment de vous être fidèles et d'apporter chaque jour au relèvement de la patrie le tribut de notre labeur et de notre attachement.
Le maréchal agite avec douceur sa main gantée. Pour le remercier, les habitants de la Creuse ont aussi prévu des cadeaux.
C'est été fait par les jeunes chômeurs, monsieur maréchal.
Ah, ça, qu'est-ce que c'est ? De l'artisanat. Très bien.
Là, ça a été fait par les élèves eux-mêmes, quand ils ont su que vous alliez venir.
Ah, merci.
On lui offre même un mouton.
Oh, un
concept de bon pasteur qui ramène la France égarée.
Puisqu'il est le bon pasteur.
Très bien, vous voyez, monsieur l'amiral prétend qu'il pourrait l'emmener.
Oui, monsieur le maréchal. Vous êtes des grands plaisirs, monsieur le maréchal.
Je m'emmènerai alors. Ce sont les louveteaux, monsieur le maréchal. Je vous donne cela.
Ah, petit louveteau.
Vas-y.
Monsieur le maréchal, notre cadeau ne saurait être digne de votre grandeur. Tous les mouvements guéritoires de scoutisme unis cordialement vous offrent cette modeste offrande pour soulager des malheurs.
Bravo, merci, c'est vrai, gentil.
Dans la foulée, le maréchal s'exprime devant la foule qui est venue l'honorer.
Je viens de recevoir les offrandes des gens de la Creuse. Je suis vraiment touché. Il y a quoi? Un poulailler, il y a des œufs, il y a du jambon, il y a du beurre, il y a du fromage, de toute nature. J'ai l'intention d'envoyer une partie de ces offrandes à l'hôpital. Les donateurs ne m'en voudront pas, j'espère.
On est troublé par ces reportages. Ils durent des heures. Et quand on passe du temps à les écouter, on comprend deux choses. D'abord, ce soulagement chez beaucoup de Français qui ont eu si peur de l'armée allemande, si peur de la guerre, et qui ont vu en Pétain un recours. On ne peut pas leur en vouloir, qu'aurions-nous fait à leur place? Et ensuite, on imagine qu'au milieu de cette ferveur inquiète, Pétain a dû croire en effet qu'il était le messie de la France, investi d'une mission sacrée, la Révolution nationale. Mais, profitant du désarroi des gens, le père protecteur va devenir le père fouettard au service du Troisième Reich. C'est sans doute là, dans cette ferveur populaire, que se noue l'insupportable pour la conscience nationale française.
Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir ici, mais si je passe à côté d'Aubusson, je ne manquerai pas de faire un crochet pour venir encore une fois jusqu'à vous et vous remercier.
La Révolution nationale, Éric Alary, elle dénonce, vous l'avez dit, l'individualisme, le libéralisme économique, mais aussi l'universalisme. On a le sentiment que c'est la recherche d'une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Qu'est-ce que ça sous-entend pour cette Révolution nationale?
C'est très très juste ce que vous dites finalement, parce qu'il réunit autour du programme de Révolution nationale finalement des gens qui ont cherché très certainement cette troisième voie dans l'entre-deux-guerres. Et justement, Pétain peut-être essaye d'incarner, de remplir une espèce d'interstice qui se situerait entre le capitalisme et le communisme, en quelque sorte. Il a vraiment pensé que son programme d'opposition symétrique au parlementarisme, à la Troisième République, à l'individualisme, etc., marcherait. Après tout, Verdun, ça avait marché. Après tout ce qu'il avait entrepris dans sa vie avait réussi. Est-ce qu'il ne se prend pas pour un messie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il se prend à ce moment-là très certainement comme au-dessus du commun des mortels, ça fait déjà un petit moment, mais déjà un peu plus.
Pour finir, Éric Alary, cette révolution nationale a échoué. Néanmoins, il faut quand même dire qu'elle a beaucoup aidé les Allemands sur le territoire national.
Bien sûr, la révolution nationale, qui n'est pas toujours synonyme de collaboration, mais qui est quand même l'image que l'on a de la collaboration, va beaucoup aider les Allemands, effectivement, parce que les Allemands peuvent pas occuper tout le pays tout de suite, parce que les basses besognes, vaut mieux les laisser faire à la police et à la gendarmerie française plutôt que les faire soi-même, notamment les rafles. Et donc, finalement, les Allemands surveillent tout de même ce qui se fait. Otto Abetz, qui est l'ambassadeur du Reich en France, a donc soumis Pétain à un certain nombre de contorsions de ce programme de la Révolution nationale. Des contorsions, Pétain fait souvent contre son gré des choix qui sont ceux des Allemands, qui estiment que, par exemple, la Révolution nationale, c'est une chose, mais que eux, avant tout, ils ont besoin de collaboration économique, ils ont besoin de collaboration antisémite. Et très rapidement, c'est pour ça aussi que la Révolution nationale n'est plus véritablement un mot dans la bouche de Pétain. Il ne parvient pas très rapidement à élaborer ce programme.
Pour finir, peut-on dire que cette Révolution nationale fut l'expérience d'un fascisme à la française?
J'évite personnellement de parler de fascisme. Pour une raison simple, c'est que pour moi, le fascisme implique l'existence d'un parti unique. Il y a eu une tentative de parti unique qui serait une sorte de base, de fondement du nouveau régime. Ça n'était pas le choix de Pétain. Et même s'il a créé la Légion française des combattants, ça n'a jamais été conçu comme un parti d'encadrement total de la société, relais du chef, comme on le voit dans les régimes fascistes. Mais c'est très compliqué de dire ça. Parce que si jamais on dit « Vichy n'est pas un régime fasciste », on vous dit « Ah oui, d'accord, donc finalement, vous avez un jugement plutôt positif sur ce dit régime, vous lui trouvez encore des excuses ». Sauf que je prends toujours un exemple, c'est la comparaison avec l'Italie. Quand il s'est agi de la déportation des Juifs de France en 1942, que l'Italie, à partir de novembre 1942, va occuper une partie de la zone sud, la partie limitrophe de l'Italie, mais enfin assez large jusqu'au Rhône. Les Italiens qui sont présents, les autorités italiennes, en particulier les militaires, vont protéger les Juifs, y compris de la pression française qui voulait que ces Juifs de Grenoble, de toute cette zone-là d'occupation italienne lui soient livrés pour que Vichy les livre aux Allemands. Ça veut dire qu'on a un régime que je dis non fasciste, qui livre des Juifs, alors qu'un régime qui évidemment est fasciste, qui est le nom vient de là, qui est le régime italien de Mussolini, va refuser de livrer ces Juifs. Donc il faut toujours se donner des outils pour comprendre et analyser la réalité qu'on a devant soi. Et on n'est pas là pour porter des jugements de valeur. On est là pour se donner des moyens de comprendre comment fonctionne et où se situe ce nouveau régime. Ce régime a choisi deux choses. La première, c'est de concrétiser, en quelque sorte, le rêve de l'extrême droite française au pouvoir, et en même temps, situation de contrainte qui lui a permis d'ailleurs d'arriver au pouvoir, système d'occupation, de choisir la collaboration, qui va l'amener d'ailleurs jusqu'à co-gérer la mise en œuvre de la solution finale, donc la déportation des Juifs de France, voulue par les Allemands. Ça n'était pas inscrit dans le programme du régime de Vichy, mais parce qu'ils ont fait le choix de la collaboration jusqu'au bout, ils vont accepter de co-gérer cette politique allemande.
En conclusion de ce cinquième épisode, il faut retenir que l'accès au pouvoir de Philippe Pétain s'est doublé d'un projet politique. La Révolution nationale fut le programme de l'extrême droite française. Un programme fondé sur le redressement moral du pays et sur l'exclusion des mauvais Français, toujours de plus en plus nombreux aux yeux de Vichy. Un programme qui a conduit notre vieux pays à dénoncer, à insulter, à traquer, puis à déporter certains d'entre nous.
Tu sais combien de lettres de dénonciation de juifs arrivent par jour à la police? Dis un chiffre.
Je sais pas, moi, 300.
1500. 1500 lettres par jour. Mon patron est juif, mon voisin est juif, mon beau-frère est juif.
L'antisémitisme du régime de Vichy, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, l'antisémite polymorphe. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter.
Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin. Un livre France Inter.